Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about you, as I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le numéro 79 de votre émission de cinéma préférée. Cette semaine, nous vous emmenons au Japon après une escale en Corée. Vous l'aurez peut-être compris, chers auditeurs et chères auditrices, d'étoiles plein les yeux regardent vers le soleil levant avec deux films, Seul sur la plage la nuit de Hong Sang-soo et Vers la lumière de Naomi Kawase. Et en fin d'émission, nous nous retrouverons pour parler des sorties de la semaine, mais sans plus attendre, commençons par le film de Hong Sang-soo, Seul sur la plage la nuit. Alors Yoon-hee est une jeune actrice ayant quitté la Corée suite à un chagrin d'amour. Exilée à Hambourg, loin du scandale suscité par son histoire avec un réalisateur marié, elle tente de se reconstruire sur les plages de la mer du Nord avant de regagner les rivages de son pays natal. Alors du coup, Mae, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
J'ai pas beaucoup aimé. J'avais été attirée dans la salle avec les images de la bande-annonce que j'avais beaucoup aimée, avec cette image notamment de l'actrice couchée sur la plage que j'avais trouvé très romantique. Et du coup, je m'étais dit, ah chouette, un film un peu contemplatif, un peu triste, un peu mélancolique, on va regarder les vagues déferler sur le rivage japonais. Coréen peut-être, coréen. Et en fait, j'ai été complètement déçue. Au niveau de l'intrigue, j'ai pas aimé ce que ça racontait. J'ai pas compris vraiment où était l'intérêt. Je trouvais que ça avait pas beaucoup de profondeur. Alors je sais pas ce que t'en as pensé toi d'intime, mais...
Alors moi, en fait, j'ai trouvé un peu comme toi qu'il y avait quelque chose de très romantique, mais qui flirtait parfois un peu avec le poncif en fait. C'est-à-dire qu'il y a des figures qui sont assez intéressantes. Il y a cette espèce de figure de l'homme habillé en noir un peu étrange, assez expérimental, qui revient sans cesse, que personne ne semble voir, ou alors... la multitude de dessins qu'elle fait sur la plage du visage de son amoureux. Et j'ai trouvé que voilà, on était un peu du côté du topos un peu lourd sur l'histoire d'amour, avec les vagues, voilà, le temps qui passe, le sable, la beauté éphémère de l'histoire d'amour, etc. Et puis la fin, alors qu'on va pas dévoiler ici, mais qui m'a un peu déçue, cette espèce de fausse...
Ah oui, mais la fin, c'était carrément, là, pareil, le topos, encore une fois... C'est trop quoi.
Oui,
c'est
voilà, c'est ça.
Flashback. Et au niveau aussi des dialogues.
Ah.
Alors je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi je trouve que ça c'est quelque chose qui est que. Pour avoir déjà regardé un truc tout con, mais des séries coréennes, j'ai l'impression que c'est genre un côté gnangnan en fait. Totalement des dialogues qui.
Oui, c'est
ah,
ça.
Ah oui. C'est-à-dire ma pauvre, oh, je t'aime beaucoup, mais tu es extraordinaire. Ah bah oui, non mais c'est vrai que oh, ils sont insupportables. Moi, en fait, je trouve qu'il y a une sorte de cucuterie qui rend le tout hypocrite et du coup, on n'y croit pas du tout.
Et puis, moi, c'est les espèces de, enfin, le film est émaillé d'explosions de l'héroïne qui à table, qui va insulter un peu tout le monde comme ça à la cantonade et qui va d'un coup, ça va être le surgissement du lyrisme comme ça un peu à la fois irascible, mais je trouve que ça marche pas forcément, que la première fois à la limite c'est un peu surprenant, la deuxième fois on commence à dire bon est-ce qu'elle va crier comme ça tout le film, et après la troisième fois ça voilà, on a compris qu'à chaque fois qu'elle était ivre son histoire d'amour revenait la hanter, mais ça fait plus tellement d'effet quoi.
Et puis même ce qu'elle dit dans ces moments-là, c'est pas percutant.
Oui.
Ça pourrait être des sortes de litanies hyper violentes qui défoncent, je sais pas, qui vont dire les quatre vérités des personnages et les grandes vérités sur la vie, mais non, elles restent en fait sur des sortes de platitudes assez entendues.
Surtout cette espèce de vous êtes pas qualifié pour l'amour, il y a des gens qui sont qualifiés, des gens qui sont pas qualifiés. Bon, alors je me demande si c'est dans la traduction des sous-titres qui rend ça
peut-être, ou alors mais un truc qui est scénario mal écrit tout simplement.
Oui, voilà, moi c'est un peu la peur que j'en ai. Après voilà, il y avait cette impression de poids, cette espèce de tentative avec cet homme en noir, mais c'est vrai que ça m'a pas convaincue. Enfin, j'ai essayé d'intellectualiser le truc pour essayer d'y trouver
on a pas l'impression que ce soit raccroché à une réflexion, hein. Après, c'est vrai que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, notamment, je pense, quand il lave cette vitre-là de manière totalement absurde.
Et que personne ne le voit.
Et que personne ne le voit, mais en fait, si encore il y avait une chute à la fin du film où on comprenait une sorte de métaphore autour de ce personnage, mais je trouve que...
Puis cette espèce de... Le fait qu'elle soit sans cesse affamée, tout ça, enfin cette idée de bon... Mais ça en devient, voilà, pareil, là encore, du côté du poncif, voilà, bon, alors... Au début, il y a son amie qui lui dit « Ah oui, toi, tu as beaucoup de désirs, moi, j'étais plutôt réservée. » Et elle, tout le film, elle a tout le temps faim. Enfin, des choses comme ça qui... Et qui paraissent...
Au début du film, tiens, ça quand même, j'ai envie d'en parler. Quand elles disent que c'est beau, c'est beau, c'est beau. T'as trouvé ça beau ?
Bah non. Tout est gris, tout est...
C'est gris, il y a de la terre, c'est fermé. Le parc a rien de magnifique. Elles sont là à s'extasier devant la beauté de cette nature.
Après, je me demande si c'est pas... Parce que nous, bah, on a pas, enfin, on a plus l'habitude de ces paysages d'Allemagne du Nord comme ça, qui nous rappellent pas forcément un truc ultra romantique. Enfin, pour nous, c'est peut-être quelque chose de... qui est plus... relié à une histoire un peu minière ou un peu portuaire qui est pas forcément très sexy.
Ouais, peut-être. Mais je... Ou alors encore un truc, un relent de niaiserie.
Oui, voilà, aussi. Enfin, c'est pas à exclure. Et puis je trouve aussi que ce film a souffert de la comparaison par rapport au film dont on va parler ensuite.
De, ouais, Vers la lumière.
Donc est-ce qu'on recommande ce film, du coup ?
Si vraiment vous vous ennuyez le dimanche après-midi, mais je crois qu'il y a d'autres films qui sortent qui sont peut-être plus intéressants.
Voilà, ouais, moi ça va, je vais avoir la même approche que toi. Et donc, après Les Ténèbres, la Lumière, nous passons maintenant au film bien nommé de Naomi Kawase, Vers la Lumière. Alors, Misako est auteure d'audio-description de films pour malvoyants, et elle travaille avec l'aide d'un groupe de consultants dont fait partie Masaya Nakamori, ancien photographe, en passe de perdre irrémédiablement la vue. Une relation se noue entre les deux individus, entre Misako qui décrit et Nakamori qui tente désespérément de capturer cette lumière sur le point de disparaître. Alors Maë, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Je pense... Alors, j'ai pas adoré. J'ai trouvé qu'il avait des aspects assez intéressants, notamment avec toute la réflexion en fait, qu'il pose sur la création, sur l'interprétation de l'art, sur ce que ça peut faire ressentir. Peut-être aussi sur les personnes malvoyantes. Il y avait matière à réfléchir, donc au moins on s'ennuyait pas parce que on pouvait dériver dans ces réflexions là.
Alors moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé que bon déjà les images étaient très belles, que on reconnaît voilà cette photographie assez typique de Naomi Kawase qu'on avait pu voir dans Still the Water. Là c'était beaucoup plus doré, alors que dans Still the Water ça allait être un peu plus dans les tons bleus. Et puis je trouve que le rôle du photographe qui devient aveugle est quand même très bien interprété. Bah, si on devait le comparer avec le rôle de un autre rôle qui subit la perte, bah, c'est celle qui, enfin l'héroïne de Seule sur la plage de la nuit, là pour le coup il y a quelque chose qui est assez marquant. Et la musique aussi, peut-être qu'il faut qu'on en parle, qui est la musique d'Ibrahim Malouf.
Oui, la musique
qui est quand même assez...
Je me suis dit tout le long, elle est chouette cette musique, ça ressemble à du Malouf, et c'était bien.
Et c'était lui qui était derrière tout ça.
Oui, bon plan.
Voilà. Et après moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est voilà, des trucs très formels, des jeux très formels, les jeux de lumière qui créent des effets d'écho un petit peu entre les deux histoires et qui créent une espèce d'ambivalence entre la clairvoyance et la non-voyance. C'est-à-dire quand on se passe en vue subjective et qu'on voit depuis le point de vue du photographe qui devient aveugle, on a l'impression qu'en fait, il est aveuglé par une lumière, une espèce de lumière qui vient de nulle part et de partout à la fois. Et elle, quand elle essaye de se mettre à sa place, quand elle éprouve des expériences un petit peu... des chocs visuels, des chocs esthétiques dans la nature, quoi, très simplement, quand elle va regarder un coucher de soleil, etc., ça va être un petit peu la même lumière qui va la frapper, elle. Donc il y a quand même quelque chose d'une mystique un peu voilà, de la cécité que
oui,
j'ai trouvé assez
ça.
Intéressante.
Peut-être quelque chose qui effraie particulièrement la réalisatrice. Je suis tombée par hasard l'autre jour sur un article qui parlait de la relation très particulière de Naomi Kawase avec sa caméra, où on la voyait tenir cette espèce de caméra qui est la même en fait presque que l'appareil de photo du photographe dans le film, et de la même manière en fait dont elle a filmé le personnage principal. Et du coup, ça, je me suis interrogée sur une possible expression d'une angoisse en fait de la réalisatrice.
Bah, c'est vrai que c'est tout à fait possible, surtout qu'il y a la métaphore qui est filée et très explicite entre cet appareil photo et le cœur du photographe qui représente un petit peu. Et puis d'ailleurs Naomi Kawase, elle raconte dans une interview dont j'ai oublié la source, mais que sa grand-mère lui reprochait souvent de de regarder les gens de trop près, de toujours aller de beaucoup trop près de leur visage. Et elle, on sent que c'est de cet ordre-là, quoi, que... Bon, on va sortir la petite citation qui va bien. On ne voit bien qu'avec le cœur.
C'est beau, c'est beau.
Et du coup, il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire de Naomi Kawase qui va mettre son objectif au plus près des visages pour essayer de capter quelque chose de limite mystique, mm-hmm. je trouve.
Alors après, moi, c'est vrai que c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai été un peu parasitée, en fait, par le souvenir d'un autre film que j'avais vu dans le cadre du Festival Lumière de le Louillet, qui s'appelle Blind Massage, dont on a parlé dans D'étoiles plein les yeux. Et en fait, qui traitait aussi de personnages aveugles avec en fait des effets visuels absolument magnifiques pour en fait représenter à l'écran la cécité, ce qui est absolument assez paradoxal en fait. Et c'est vrai que Blind Massage avait été tellement réussi que je trouvais que limite Naomi Kawase n'allait pas assez loin en fait dans ce qu'elle aurait pu faire de ce personnage aveugle et d'images qui montraient à quel, la malvoyance de ce personnage là.
Oui. Après, j'ai l'impression que Naomi Kawase se situe aussi du côté vraiment de l'aveuglement plus que de la cécité. Enfin, cette idée, voilà, de ces lumières comme ça qui vont faire comment dire, même le rôle de la mère de l'héroïne qui est on comprend qu'il perd un peu la tête, etc. Elle va aller observer le soleil comme ça, comme quelque chose qui va un petit peu annihiler un peu tous ses souvenirs. Et puis j'ai trouvé un autre truc très intéressant dans ce film, c'est le traitement des corps. On ressent vraiment la matérialité des corps, notamment par tout ce qui est le jeu avec l'appareil photo qui est en argentique, donc quelque chose qui est assez matériel par rapport à l'image numérique. Et on le ressent à plusieurs reprises, ce poids des corps qui empêche et qui ramène le regard sans cesse vers le bas, il m'a semblé, voire même qui l'occulte. Enfin, au tout début du film, c'est la scène quasiment d'ouverture, enfin non, pas la scène d'ouverture, mais presque, où on la voit dans la rue en train de décrire pour elle-même ce qu'elle voit pour s'entraîner. Et puis d'un coup, elle observe, son regard s'élève dans une espèce de tourbillon de vision et de son, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui klaxonne, et ça la ramène soudain à la réalité. Enfin, toujours, il y a des espèces de moments où le regard est ramené vers le bas, ou alors quand elle marche dans le bourbier, quand elle cherche sa mère dans la forêt, ou... Régulièrement, il y a des moments où, d'un coup, on dirait que le corps rattrape un peu cette vision qui se voudrait un petit peu clairvoyante et omnivoyante, je sais pas si c'est...
Moi, ce qui m'a gênée dans... Je crois que c'est aussi le personnage principal. En fait, à la fois, ça m'a gênée et à la fois, c'est peut-être en fait, le cœur de la réflexion du film. J'ai pas encore réussi à me décider sur ça. Mais c'est son côté un peu plat dans la manière où elle est... On a l'impression qu'elle a une sorte d'incapacité de voir plus loin justement que les faits. Elle est là, parce qu'elle décrit en fait les films, elle fait de l'audiovisuel, audiodescription, pardon. Et en fait, du coup, elle reste sur la description pure et simple des images et dans des trucs qui sont... Après, il y a toute une réflexion qui se développe sur le fait qu'elle pose ses propres interprétations du film dans sa description et c'est gênant parce qu'en fait, elle le fait mal. On voit dans sa discussion avec le réalisateur qu'elle n'a rien compris au film, en fait. Mais en fait... Moi, c'est quelque chose qui m'a gênée chez ce personnage, c'est que je le trouvais pas très profond, pas très fin, et du coup, ça me racontait pas grand-chose. J'avais l'impression que du coup, parce que le personnage était plat, bah finalement, l'intrigue aussi n'allait pas assez loin pour moi, ça restait assez superficiel en fait, ce qu'on me montrait. Et du coup, j'ai pas réussi à rentrer vraiment dans le film et à suivre ces personnages parce que bah, j'étais un peu déçue, je trouvais que... C'était assez basique et que ça aurait pu aller être beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant.
Après, peut-être que l'histoire du film, finalement, ce serait une espèce d'initiation par justement l'aveugle qui initie celle qui voit encore à justement bien regarder, comme si de bien regarder, ça s'apprenait d'une certaine manière. Enfin, je sais pas encore non plus.
Oui. Et j'ai pas super bien compris toute l'intrigue avec, enfin, l'intérêt en fait de l'intrigue du père décédé et à la limite celui de la mère également qui perd la tête. J'ai pas bien compris ce que ça apportait au film aussi. J'ai l'impression que c'était juste apporter un peu de drame dans la vie.
Peut-être que c'était un peu un simple effet d'écho d'une autre figure du manque qu'elle a voulu intégrer, mais après c'est sûr que oui, c'est pas forcément.
Ouais, je voyais pas ce que ça rapportait justement à toute cette réflexion centrale sur l'interprétation, sur voir autre chose que ce qu'on nous montre, enfin bref.
Bon, alors du coup, est-ce qu'on recommande ce film?
Il est intéressant quand même, mieux que Seul sur la plage la nuit.
Moi je dirais que j'ai beaucoup aimé, que je le recommanderais quand
D'accord,
même.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
Et tout de suite, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Alors d'abord, va sortir aujourd'hui Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Alors c'est un film de Martin McDonagh et qui raconte l'histoire d'une mère alors qui, après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. Alors c'est un film qui a l'air... de décoiffer d'une certaine manière et qui a l'air de faire très envie. Ensuite, The Last Family, qui est un film de Jan P. Matuszynski, j'espère que je prononce bien. Alors, né en 1929, Zdzisław Beksiński, peintre surréaliste polonais, connu pour ses inquiétantes œuvres post-apocalyptiques, vit avec sa femme, Zofia, catholique convaincue, et leur fils impulsif et suicidaire, Thomas, célèbre animateur de radio. Donc la radio, ça nous intéresse ici, à des toiles plein les yeux. Puis va sortir aussi Enquête au paradis de Merzak Alouache. Alors Nejma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une enquête sur les représentations du paradis véhiculées par la propagande islamiste et les prédicateurs salafistes du Maghreb et du Moyen-Orient à travers des vidéos circulant sur Internet. Mustapha, son collègue, l'assiste et l'accompagne dans cette enquête qui la conduira à sillonner l'Algérie. Donc c'est un documentaire qui a l'air très intéressant. Ensuite, le jeudi 18 janvier à l'Aquarium Ciné-Café, c'est à 20h45, se poursuit leur rétrospective intitulée Asian Touch avec Mother de Bong Joon-ho, donc un autre film coréen. Alors ça raconte l'histoire d'une veuve qui élève son fils unique, Doo Joon, qui est sa seule raison d'être. Il va être accusé d'un meurtre et elle va mener l'enquête pour essayer de prouver l'innocence de son fils. Et enfin, le 18 janvier toujours, à 18h30 cette fois-ci, le ciné-club de la fourmi sera dédié à Bienvenue à Suburbicon, le fameux film de George Clooney, un petit peu frère Cohenesque. Alors, Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables et aux pelouses impeccablement entretenues. L'endroit parfait pour une vie de famille. Durant l'été 59, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, entre les murs de ces pavillons, se cache une réalité tout autre, faite de mensonges, de trahisons, de duperies et de violences. Bienvenue à Suburbicon. Donc voilà, d'étoiles plein les yeux, 79, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt dans les salles obscures et à la semaine prochaine.